Nous sommes dans une série, vous savez que l'objectif c'est d'avoir des messages centrés sur Christ pendant cette période-là. Pendant cette période de vacances aussi, l'objectif c'est que vous vous placiez devant Dieu personnellement pour trouver votre appel, si jamais vous ne l'avez pas déjà, hein. Un appel afin qu'à la rentrée, puissions faire le point de l'appel que vous avez, hein, l'appel pour tel ministère, l'appel voilà, dans votre vie, pour servir Dieu, servir l'Église. Ce sera un dimanche qu'on va consacrer pour faire le point. Donc, placez-vous dans Dieu pour trouver votre appel. Amen. Et l'appel de l'Église par conséquence, votre conséquence. Nous allons prier pour ce message sur l'autorité. Seigneur, merci parce que tu es l'origine et la fin de toute vie, Seigneur. Il n'y a ni commencement ni fin. Et en même temps, il y en a une, il y en a une direction, et toi, tu es l'auteur de la vie. Et nous te remercions pour ta parole qui est esprit et vie, qu'elle puisse parler à nos cœurs et nous aider à être transformés, changés. Qu'il y ait une métanoïa qui se passe pour que nous puissions changer de paradigme, changer de vision. Que ce soit ta vision que nous ayons sur les choses que tu as créées. Père, nous te prions au nom de Jésus. Amen. Le texte se trouve dans Marc, l'évangile de Marc, chapitre 1er, et verset 21. Ils se rendirent à Capernaum, et le jour du sabbat, Jésus entra dans la synagogue et se mit à enseigner. Ils étaient étonnés de son enseignement, car il enseignait comme ayant autorité, et non pas comme les scribes. Il se trouvait justement dans leur synagogue un homme possédé d'un esprit impur, et qui s'écria : « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça : « Tais-toi et sors de cet homme. » L'esprit impur sortit de cet homme dans une convulsion et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupeur, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres : qu'est-ce que ceci ? Une nouvelle doctrine ? Donnée avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt dans toute la région de la Galilée. En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et André. Et ensuite, après, c'est la suite, la guérison de la belle-mère de Simon. La particularité de l'évangile de Jean, pour ceux qui suivent la théologie du royaume, de l'Ade. Marc, qu'est-ce que j'ai dit, Jean ? Ah, désolé. L'évangile de Marc a la particularité, il fait partie des synoptiques des trois évangiles, Matthieu, Marc et Luc. L'évangile de Jean est à part. Il a une autre façon d'être lu, une certaine vision de lecture. Mais l'évangile de Marc est particulier en ce sens où il est très court et très direct sur les actions de Jésus. Il ne commence d'ailleurs pas du tout à la naissance. Naissance de Jésus, il commence avec le début du ministère de Jésus. Donc il ne parle pas de Noël, de la naissance, etc., de tous les mages, enfin de tout ce qui est décrit dans les autres évangiles. Il rentre directement dans le vif du sujet, dans ce qui concerne l'autorité de Jésus. Est-ce que je pourrais demander, je pense à Rémi, tu aimes bien écrire au tableau ? Non ? Ouais, ça va ? Parce que moi, je peux difficilement faire les deux. Ou alors, je les fais très mal. Voilà. Donc, si tu peux écrire ce que je vais t'indiquer, c'est concernant l'autorité. C'est encore un mot qui, comme tous les mots, renvoie à différentes réalités. Donc, autorité veut dire plusieurs choses. Il veut dire auteur. Donc, dans le mot autorité, il y a la notion d'auteur. Et dans la parole de Dieu, il est dit que toute autorité vient de... Hello ? Je peux avoir votre attention ? Dans la Bible, il est écrit, dans un passage de Romains, toute autorité vient de Dieu. Donc Dieu est l'auteur de toute autorité. Vous voyez, donc ça renvoie à une conception de l'origine de l'autorité qui, où c'est Dieu et particulièrement le Père, hein, tu mets Dieu le Père, hein, qui est l'autorité, parce qu'on voit qu'à la fin de l'histoire, Jésus va redonner l'autorité qu'il a reçue du Père au Père. Vous voyez, donc c'est vraiment le Père dans la Trinité qui a l'autorité suprême. Source, origine. La deuxième notion, on l'avait vu la dernière fois, c'est du mot latin auctoritas, c'est élever vers. Donc élever vers, c'est la notion de chef. Hein, et j'avais pris l'exemple du livre du général de Villiers, qui dit que voilà, il est un spécialiste, je dirais, de l'autorité dans l'armée, où on voit que dans l'armée, le centurion romain, il a été loué par Jésus, qui a dit « Je n'ai jamais vu dans tout Israël autant de foi ». Donc la foi et l'autorité sont liées, et ça veut dire « élever vers ». Donc un chef, un vrai chef, pas un petit chef, mais un grand chef, c'est quelqu'un qui élève les autres vers quelque chose de plus haut, vers la libération de leur personnalité. Voyez, et c'est ce que nous on a appris avec Michel quand on était avec Jack et Ford, qui a une grande église, mais justement il s'adressait à des pasteurs qui sont des États-Unis, des fois une vingtaine de gens. Hein, c'est pas parce que c'est les États-Unis, il y a des petits villages, des petites villes. Et disent, occupez-vous des gens, même si vous avez 10 personnes, occupez-les pour que chacun d'entre eux rentre dans sa destinée. Alors, élevez-les. Voilà. Donc c'est cette conception de l'autorité qui élève vers. Ensuite, l'autorité renvoie à une compétence. Une compétence, une expertise, si vous voulez. Vous savez très bien que quand vous êtes malade, par exemple une maladie spéciale, vous allez vers une autorité compétente dans ce domaine. Une autorité dans tel domaine, etc. Bon, ça c'est juste pour prendre un exemple médical. Mais on parle d'autorité quand quelqu'un a une parole compétente dans un certain domaine. Hein. Vous voyez, donc je crois que c'est assez facile à comprendre. Et un statut, donc dernier point, statut, c'est un statut. Un office aussi, hein. Tu peux mettre éventuellement office. Hein. Maintenant, ce mot office a perdu un peu de son panache. Dans l'Ancien Régime, hein, il y avait beaucoup d'offices. Hein. Aujourd'hui, on a des restes, l'office notarial, par exemple, hein. L'office, une officine aussi, de pharmacie, etc. Il y a beaucoup d'offices. C'est un lieu où s'exerce une autorité, où s'exerce une compétence. Hein, et c'est un statut. On lui reconnaît le statut. Alors, je te remercie pour l'instant. Tu as très bien travaillé. Merci. Si on prend Jésus, il exerce l'autorité, on l'a vu, hein, sur toute chose, parce que tout est soumis à Dieu, puisque c'est lui le Créateur, et il est soumis au Père. Vous voyez, dans l'exercice de l'autorité, là, on a une délivrance d'un démon qui se trouve dans cette personne. Eh bien, en exerçant l'autorité, il exerce parce que le Père lui a montré que lui, il allait donner le feu vert. Il ne guérissait pas tout le monde, hein. Quand il était à la piscine de Bethesda, il y avait tout plein de gens autour de la piscine. Il y en a une seule personne qui était guérie, parce que il faisait ce qu'il voyait faire au Père. Donc, faisons attention aussi dans le ministère, voilà, utilisons pas l'autorité n'importe comment, il faut que ce soit soumis au Père. Jésus a toujours élevé ses disciples. Il les a élevés jusqu'au dernier moment, même Pierre, il lui a exercé le ministère à Maison d'Élie, de restauration, hein, de toutes les trahisons qu'il a fait, en particulier de trahir Jésus. Eh bien, il a élevé Pierre, il élève. C'est un vrai chef, c'est le chef de l'Église. Jésus a une compétence, plusieurs compétences, toutes les compétences, parce qu'il est oint par Dieu. Il reçoit l'onction, c'est le Messie. Et enfin, il a un statut, sauf que quand il était sur Terre, il n'avait pas le statut reconnu par les chefs religieux, mais il a un statut qui est donné par son père, le statut de fils de l'homme, qui lui est cet être qui, de toute éternité, de toute origine, eh bien, est en charge du royaume, du règne sur toute chose. Il est celui qui est reconnu, d'ailleurs, on le verra tout à l'heure, par les démons qui reconnaissent son statut alors que les hommes ne le reconnaissent pas. Une dernière chose aussi, qui est la structure d'autorité. Donc il y a une structure d'autorité qui crée la communauté. Une communauté, vous voyez, c'est dans ce mot, il y a commun, hein, communauté. C'est pour ça que on revient à un nouvel élan que j'ai parlé tout à l'heure. On veut chercher du commun, parce qu'il n'y a pas de commun, il n'y a pas de communauté. Et dans la communauté, il y a une structure d'autorité. Et cette structure d'autorité, elle est à l'image de la Trinité, hein, Père, Fils et Saint-Esprit. Elle est sacré, donc j'utilise les mots grecs comme ça, ça couvre toute la panoplie de tous nos langages. La structure d'autorité qui est une autorité en même temps sacrée, hein, donc ça donne le nom de sacerdoce. La structure qui est du socius, donc qui est sociale, qui est la communauté où il y a le commun accord. Quand vous avez acte 2, 42, on voit que les chrétiens qui étaient tous ensemble, ils étaient d'un commun accord. C'est-à-dire qu'on est une association de personnes qui sommes tous d'accord pour faire la même chose. Si quelqu'un n'est pas d'accord, oh ben, normalement, il ne devrait pas faire partie de la communauté puisqu'il n'est pas en accord avec les autres. Une communauté est en accord. Avec, voilà. Et c'est pas des moutons bêlants, hein. C'est simplement par volonté personnelle, on se met en accord avec les autres, sinon on n'est pas dans une église. Et ensuite, après, il y a le res publica, c'est la politique, le politique. Res publica, c'est du latin, ça veut dire le bien commun. Et politique, c'est politéen, c'est le bien commun. Donc là, c'est le bien commun, c'est le commun accord, et ici, c'est le bien suprême. Celui de Dieu. Là, on est dans la transcendance verticale. Là, on est dans l'immanence au niveau de la communauté qui est une seule, c'est ensemble, une légitimité corporelle. Et ici, on est dans le politique des leaders qui sont chargés de faire respecter le bien commun de tous. Et là, c'est Pierre. Tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Vous voyez ici, c'est l'autorité de la communauté qui est triple, qui est au même niveau sur ces trois points, et qui est sous l'autorité de Jésus, qui est le chef, qui est l'autorité à l'instar de Dieu Elohim. Vous voyez, Dieu c'est Yahvé, Elohim c'est le pluriel. Donc on voit que déjà dans Elohim, Dieu, Yahvé Elohim, Dieu Elohim, il y a la notion de la Trinité qui est incluse. La dernière fois, j'avais parlé de la façon dont Jésus a exercé l'autorité. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir revenir sur le diaporama complet. Voilà, donc cinq types d'autorité de Jésus qui s'exercent pendant son ministère terrestre. Donc le premier, c'est une autorité de force, c'est une force symbolique, parce qu'en fait, les vendeurs du temple sont partis, il les a pas tabassés, mais il les a obligés de partir, parce qu'il a dit « ma maison sera appelée une maison de prière ». Et non pas une maison de trafic. Et donc Jésus a exercé l'autorité symbolique qu'on exerce aussi dans l'Église, qui s'appelle la discipline, qui fait partie de la communauté. L'autorité d'influence, les gens le suivaient, les foules le suivaient. quand il se retournait, il n'était pas tout seul. Au contraire, il devait parfois prendre du temps personnel avec son père pour éviter la foule, tellement il était suivi un exemple, un leadership qu'on aime suivre, qui guide sur le chemin. Il était aussi une autorité d'orientation stratégique, c'est-à-dire vraiment capitale pour la vie, qui emmène vers la vie éternelle. Il parle à des personnes pour les ramener vers l'orientation de leur vie, ce qu'il fait avec chacun de nous. Ensuite, il y a une autorité d'enseignement. On le voit ici, il enseignait avec autorité. C'est-à-dire, son enseignement n'était pas un enseignement abstrait, c'est un enseignement qui se concrétisait dans la vie de tous les jours, et les gens l'écoutaient, et ils voyaient la différence avec les scribes. C'est une autorité d'édification, de croissance, hein, ce qu'on a parlé tout à l'heure aussi, cette façon d'élever vers l'aboutissement, l'épanouissement de la personnalité de chacun. Et donc il fait grandir les hommes vers plus de vie, plus de son amour, plus de sa grâce. Amen. Voilà. Alors, avec cette perspective que je viens d'évoquer, on va relire le texte de Marc pour y trouver un petit peu tout cela. L'autorité de Jésus dans Marc, on l'a vu ici, elle n'est pas présupposée. Présupposée, ça veut dire qu'on s'attend, vous verrez tout à l'heure quand on prendra verset par verset, les gens ne s'attendaient pas, ils n'étaient pas prêts à reconnaître Jésus comme l'autorité, parce qu'il n'était pas été instauré par les hommes comme une autorité de statut, comme s'il avait passé par l'école rabbinique et qu'il était institué comme rabbin de Jérusalem, pas du tout. Donc elle est présupposée, elle n'a pas besoin d'être reconnue préalablement en vertu d'un statut divin ou d'une institution. Mais cette autorité est mise en scène. Elle est rendue effective. C'est une autorité vraie qui marque la réalité dans laquelle nous vivons tous. Et dans le texte lui-même, l'intention de l'auteur, c'est justement de montrer, et c'est pour ça que tout à l'heure je disais l'évangile de Marc est très brève, et ne parle même pas d'enseignement. Vous ne pouvez pas trouver vraiment dans l'évangile de Marc l'enseignement de Jésus. Il passe outre, mais il reste sur l'efficacité de l'autorité de Jésus. Ici, mais on a d'autres. Tout à l'heure, je me suis arrêté juste avant la guérison de la belle-mère de Simon, qui était une autorité sur la maladie. Mais la première des choses qu'on voit dans Marc, c'est l'autorité sur les démons, sur les esprits impurs. Et cette autorité libératrice qui libère les personnes est manifestée dans ce récit d'exorcisme. Vous savez que l'exorcisme existait chez les Juifs. Mais savez-vous, c'est un autre passage qui en parle, savez-vous par qui ils exerçaient l'exorcisme, les Juifs? C'est le passage où Jésus parle de Beelzeboul, quand ils disent il a autorité parce qu'il est le prince des démons, voilà, donc comme il est le prince, il a l'autorité, Beelzeboul. Et savez-vous par qui, par quel nom, hein, nous, on chasse les démons par qui? Par le nom de? Et les Juifs chassaient par quel nom? Non? Non? Je l'ai plusieurs fois dit déjà, mais bon, c'est peut-être comme quoi il faut revenir. Ils avaient un nom par lequel ils chassaient les démons, entre autres. Ils avaient d'autres exercices, d'autres rituels. C'est des rituels. Les catholiques aussi ont des prêtres exorcistes. Normalement, un par diocèse, au minimum. Mais c'est basé sur des rites. C'est basé sur des mots. C'est basé sur des principes. Et Jésus, voilà, il parle et... Et l'autorité, c'est ça qui est frappé. Alors, par quel nom pardon? Oui, tout à fait. Ah, il écoute bien, Charles. Par Salomon. Par le nom de Salomon. Et ça, Jésus le dit en disant, attendez, vous me traitez, de chasser les démons par Belzéboul. Hein, en fait, le prince des démons, quoi. Il disait que Jésus est démoniaque. Hein. Et vous, vous chassez les démons, vos fils chassent les démons par Salomon. Pourquoi Salomon? Parce qu'en fait, Salomon, le fils de David, avait une grande sagesse au début de son ministère. Il a mal terminé, un peu comme Saül. Regardez leur fin, dit la Bible. Hein. C'est important de voir comment les serviteurs de Dieu terminent leur vie. Et en fait, au début, il avait une grande sagesse. Il a demandé la sagesse à Dieu. Et cette sagesse lui permettait de chasser aussi les démons. Voilà. Sagesse, autorité, tout ça, c'est lié. Et il chassait les démons. Il avait... vous savez, même les rois de France, on appelait ça le pouvoir des scrupules, des corpuscules, enfin bref. Souvent les rois, on leur attribue, alors peut-être à juste titre, hein, je pense Saint-Louis avait la possibilité, des écrouelles. Et quand il imposait les mains sur les gens, c'est pour ça que les gens venaient quand le roi passait, pour être guéris. Hein, et ils avaient ce pouvoir qui ensuite après était institutionnalisé, mais il n'était plus exercé réellement. Parce que Dieu honore des autorités qui sont justes. Et ben, il chassait par Salomon parce que Salomon avait un pouvoir à l'époque, au début de son ministère, pour chasser les démons, pour enfin toutes les. La sagesse est une façon de se comporter dans la vie, une sagesse. Donc, il avait une grande autorité sur beaucoup de choses, en particulier de gouvernance, sur la maladie, sur les. Et donc, ils ont institué ça un peu comme si Salomon, le nom de Salomon, avait pouvoir. Ce qui fait que quand Jésus est venu, ben, ils n'ont pas vu en Jésus l'autorité qui est au-dessus de Salomon. D'accord. Il est au-dessus d'Abraham, il est au-dessus. Voilà, c'est le fils de l'homme et le fils de Dieu en même temps. Voilà. Donc Jésus commence, enfin l'évangile de Marc commence par un exorcisme. Dans le texte qui suit, donc, on voit en verset 22, il dit car il enseignait comme ayant autorité et non comme les scribes. Le nom d'autorité, le terme autorité qui est utilisé, c'est exousia. Si vous regardez dans la Bible Strong, hein, en grec, c'est le mot exousia qui à chaque fois est en face de autorité. C'est un pouvoir d'influence, un pouvoir d'autorité et d'influence, et c'est un droit, un privilège. Donc le privilège de celui qui exerce l'autorité, il exerce l'exousia, l'autorité. Il le fait en rapportant donc le premier acte libérateur de Jésus, c'est celui qui est sur les démons. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que quand on voit Jésus qui commence son ministère, dès qu'il commence son ministère, les démons commencent à crier sur lui. Vous voyez c'est intéressant parce que dans l'Ancien Testament, vous avez très peu de manifestations démoniaques. Vous en avez, mais très peu. Alors que dès que Jésus vient, les démons se manifestent. Pourquoi ? Pardon ? Parce qu'ils reconnaissent l'autorité. Et eux, ils reconnaissent l'autorité. Et très souvent, les hommes ne reconnaissent pas l'autorité. C'est dramatique. Et même parfois, des chrétiens ne reconnaissent pas l'autorité. Ils pensent que c'est un dû. Hein, Jésus nous a libérés, etc. Non, les démons reconnaissent l'autorité. Dans ce chapitre, où on commence par... Ils se rendirent à Capernaum, et aussitôt le jour du sabbat, il entra dans la synagogue et il enseignait. Et cet enseignement était un enseignement qui stupéfiait les gens. C'est intéressant de voir qu'ils étaient stupéfiés, étonnés, stupéfiés de cet enseignement. Non pas comme les scribes, c'est un enseignement ayant autorité. L'autorité de Jésus, telle que Marc l'a décrit, c'est tout le début du ministère de Jésus, cet exorcisme dont il est question. Souvent chez Marc, d'ailleurs, il ne s'étend pas trop sur le contenu de l'enseignement de Jésus, mais il nous donne de constater l'effet thérapeutique, libérateur de la parole de Jésus. Jésus est la parole, hein, et sa parole, elle est créatrice. Donc les spectateurs de la scène, qui sont là à Capernaum, sont a priori des admirateurs de Jésus. Et l'évangile de Marc nous montre en effet systématiquement les autorités religieuses, les sadducéens, les pharisiens, les chefs de la synagogue et du temple, qui sont opposés au Jésus, opposés à Jésus. Nous avons d'un côté le peuple qui est ouvert et les chefs qui sont opposés à Jésus. Que ce soit dans la patrie où Jésus est né, donc où Jésus vivait dans la Galilée, ou à Jérusalem, la capitale. Il faut d'ailleurs évoquer l'aspect polémique dans le fait de cette intervention publique de Jésus qui se trouve dans la synagogue où se trouve un homme possédé. Quand même étonnant. Il y a quelques années, ça crée un gros problème chez les chrétiens de croire qu'il y a des chrétiens qui peuvent être démonisés. J'utilise pas le mot possédé, parce que normalement, un chrétien qui a l'esprit de Jésus en lui, il ne peut pas être possédé complètement. Mais il peut être démonisé, il peut être influencé par des démons. Et donc, vous voyez, ce paradoxe où Jésus se retrouve dans une synagogue où il y avait un homme qui était démonisé. Alors que, voilà, c'est pas possible que dans une synagogue, un homme soit démonisé, quoi, puisqu'il sert le Seigneur. Donc, vous voyez, déjà, c'est un signe que Marc, il envoie à notre égard. Le public évoqué ne reconnaît pas, a priori, l'autorité de Jésus, bien au contraire. Et très habilement, Marc ne nous dit rien du contenu de l'enseignement de Jésus dans cette synagogue. Il donne simplement la réaction, l'effet qu'ils étaient stupéfaits de son enseignement, car il enseignait avec autorité, non pas comme les scribes. L'auditoire qui voit ce que Jésus fait, il est frappé de stupeur. Il n'est pas seulement intéressé, ni même séduit par ce qui se passe, mais il est stupéfait. Vous voyez, stupéfait, c'est... On ne comprend pas. On est pétrifié. Et avec une certaine violence, l'enseignement de Jésus saute aux yeux. Il s'impose, l'autorité s'impose en créant la stupeur. Mais le lecteur ne connaît rien de l'enseignement. C'est pour ça que Marc n'en parle pas. Vous voyez, ça ne passe pas par le raisonnement, par l'intellect, ça passe par l'observation des faits. Ensuite, l'auditoire apprécie l'enseignement de Jésus en contraste avec celui des scribes, qui sont les spécialistes hein, de la loi de Moïse, les scribes. Et la différence entre Jésus et les scribes porte sur l'autorité avec laquelle Jésus enseigne. Le lecteur est porté à se demander en quoi consiste cette autorité, qui ne peut être que reconnue. C'est-à-dire, on reconnaît l'autorité, mais on ne sait pas de quelle nature elle est. Donc voilà, ça commence à intriguer l'auditoire. Et même dans un milieu hostile a priori. En contraste, on peut se demander ce qui manifeste le manque d'autorité de l'enseignement des scribes, qui eux sont pourtant qualifiés. Et vous, on parle de compétences et de qualifications. Les scribes sont qualifiés. Je crois savoir, ma mémoire si elle ne flanche pas, on ne pouvait pas être scribe avant 30 ans. 30 ans, c'était le maximum. À l'époque, l'espérance de vie n'était pas celle d'aujourd'hui. Hein. On mourait très tôt. Mais il fallait jusqu'à 30 ans d'enseignement à partir de l'école rabbinique de 13 ans. Il commençait à 13 ans. Et attention, à l'époque, ils n'avaient pas les iPhones. Ils connaissaient la Bible par cœur. Par cœur. C'était un travail absolument harassant. Ou tout petit, à partir de 13 ans, ils apprenaient. Sinon, ils ne pouvaient pas être scribes. Ce n'est pas possible. Donc, nous sommes dans cet auditoire où on disait que Jésus a l'autorité, non pas comme les scribes. Jésus n'avait aucune autorité statutaire. Il n'était pas passé par une école rabbinique. Il n'avait pas de diplôme de théologie, il n'avait pas de diplôme, vous voyez, mais il était efficace. dans son autorité. Il enseignait avec autorité. C'est étonnant que le mot enseignement est en lien avec l'exorcisme, avec l'autorité sur les démons. C'est étonnant. Il enseignait alors que Marc ne parle pas de son enseignement, que ce qu'il disait, on ne sait pas. Mais vous voyez, l'enseignement, ce n'est pas que théorique, ce n'est pas que abstrait. L'enseignement, c'est de savoir qui est Dieu. Qui est celui qui a cette autorité? Et ça, c'est le centenier. Le centenier qui, voilà, c'était un païen, hein, c'était un romain, qui n'était pas juif, qui n'était pas passé par les écoles rabbiniques. Et pourtant, lui, il a discerné que Jésus avait l'autorité sur la maladie de son fils, et il a cru, et Jésus l'a loué. Donc, il a cru à son enseignement. Et donc, voilà, c'est une porte ouverte aussi pour un autre message, l'autorité et l'enseignement. Alors, de manière étonnante, il y a un homme qui est démonisé, possédé d'un esprit impur, dans la synagogue. Et maintenant, c'est au tour de l'esprit impur. Écoutons l'esprit impur, le démon qui parle. Contrairement à l'auditoire, l'esprit impur sait qui est Jésus. Si l'auditoire ne sait pas qui est Jésus, puisqu'il n'y a pas de statut, il n'a pas passé par l'école rabbinique, etc. Donc on ne sait pas qui il est, est-ce que c'est un usurpateur, est-ce que c'est un libérateur politique, voilà, ce que les disciples ont cru jusqu'au dernier, jusqu'au bout, hein, même jusqu'à la résurrection. Eh bien, les démons savent qui il est. Voyez-vous, comme dans le monde spirituel invisible, les choses se savent, l'autorité se sait. Et les démons disent, c'est Jésus le Nazaréen. Il est le Saint de Dieu, le Saint de Dieu. C'est intéressant. Comme quoi on a des choses à apprendre. Les démons savent plus de choses que nous. Et c'est pourquoi il faut faire attention aux démons, parce que les démons nous saisissent et nous font faire des choses contraires à notre volonté, si on n'est plus maître de nous-mêmes. Et c'est pour ça qu'on a besoin de délivrance. Il y a dans cette expression une reconnaissance d'un statut, mais qui est un statut donné par le Père, qui est un statut parce qu'il a vu son fils être soumis. C'est l'idée de la soumission à l'autorité. Comme il était soumis au Père, il avait un statut de quelqu'un qui pouvait exercer l'autorité au nom du Père. La présence de Jésus est d'emblée pour les esprits mauvais une source de crainte. Qu'est-ce qu'ils disent les démons ? Ils disent, qu'y a-t-il entre toi et nous ? Ou entre nous et toi ? Qu'y a-t-il ? Et vous, ils sont craintifs. Ils disent, qu'est-ce qui se passe là ? Il y a quelque chose entre nous. Il y a quelque chose qui nous sépare. Hein ? Es-tu venu pour notre perte ? Donc ils savent que, enfin, ils le devinent en tout cas, que ce Jésus qui commence à les chasser, il est venu pour la perte des démons. Est-ce que vous vous réjouissez de ça ? Jésus, d'ailleurs, il a dit pourquoi il est venu sur la terre ? Quelle est la première de ses missions ? Il est venu pour libérer et encore plus précisément... Pardon ? Oui, mais plus précisément, le combat, il est de quelle nature, le combat spirituel ? Voilà, il est venu pour détruire Satan. Il est venu pour détruire le royaume de Satan. Il a dit clairement. Si on ne comprend pas ça, enfin dans le sens de comprendre, prendre en soi, hein, pas simplement comprendre dans la tête, prendre en soi le fait que Jésus est venu pour détruire l'œuvre de Satan, c'est ça qu'il est venu. C'est pour ça que les disciples, et Judas bien sûr le premier, n'ont rien compris au statut de Jésus ni à son œuvre. Parce qu'ils voulaient qu'il fasse venir des légions d'anges, qu'il fasse intervenir ce qu'il aurait pu faire. Mais il dit non, ma mission c'est de détruire l'œuvre de Satan. Et comment est-ce qu'il l'a détruit ? On l'a chanté ce matin à la louange. Par la croix. Dis à ton voisin, par la croix. C'est par la croix qu'il a détruit. Voyez-vous ? Il n'est pas monté sur un cheval, voilà, qu'on peut imaginer, un roman, voilà, qui montre Jésus à cheval et il viendra à cheval à la fin, glorieux. Mais ça, c'est la suite. Mais il l'a vaincu à la croix, par l'humilité, par l'obéissance, par la plus grande obéissance qu'un humain ait pu faire. Et ne parlons pas d'Adam, mais ne parlons pas de nous, hein, qui sommes faillibles, mais à la croix. Il a vaincu l'ennemi. On notera que l'esprit impur fait corps avec l'homme qu'il possède ou qu'il influence. Il parle en son nom et s'associe à lui dans un nous. Il parle de nous. Bon, il peut y avoir un doute dans le sens où l'esprit parle au nom de tous les démons. Il pourrait dire tous les démons. Mais il y a des grandes chances qu'il parle de nous au sens de l'homme qui est démonisé et de lui et du démon. Donc ça veut dire qu'il y a une unité. Vous voyez, quand on est démonisé, alors vous vous rappelez, je le rappelle régulièrement, que on peut dessiner un cercle pour montrer qu'il y a deux parties dans ce cercle, la partie supérieure et la partie inférieure. Ici, on peut pécher et être harassé par des démons. Exactement comme les mouches en ce moment, hein, c'est assez actif les mouches. Mais les mouches, vous pouvez les chasser, ils reviennent, ils chassent, ils reviennent, etc. Voilà. Donc ça s'appelle un harassement. Ce premier niveau de démonisation, c'est le harassement. On est tous harassés. Il y en a qui ne sont jamais harassés par des esprits impurs, non ? Ou par des pensées impures. Voilà, on est harassés. Le problème, c'est que si on est en communion avec le Seigneur, on a l'autorité parce qu'on ne donne pas des droits à l'ennemi. Simplement, on est harassé par lui, on ne donne pas les droits. Mais quand on commence à pratiquer le péché, c'est-à-dire à aimer ce qu'on fait, bien sûr, on ne va pas dire « j'aime le péché », mais on aime des choses qui sont de l'ordre du péché, eh bien, on perd ses droits. Et là, j'ai dessiné ça comme des barreaux d'une cellule. Ici, c'est un peu comme si on est dans une cellule, on peut rentrer et sortir. Et à un moment donné, quand on persévère dans le péché, la cellule se ferme. Et on n'a pas la clé. Il faut chercher la clé dans celui qui tient la prison, qui a la clé. Et là, dans cette partie-là, on a besoin des autres. Et beaucoup de chrétiens ne se rendent pas compte qu'ils ont besoin des autres parce qu'ils ont trop pratiqué les choses volontairement et involontairement. Hein. Ce n'est pas la question de la motivation, c'est la question de l'efficacité de cette démonisation. Et là, on a un ministère qui s'appelle le ministère de prière de Élie. Parce qu'Élie est venu restaurer. Élie est venu réconcilier les cœurs. Il y a une malédiction qui a été prononcée à la fin. Il a dit, c'est Élie qui va venir. Élie revient régulièrement. Il est revenu parce que c'est un esprit de restauration. C'est une maison d'Élie. Hein. Je prêcherai prochainement sur les maisons. La maison de David, la maison d'Élie et la maison de David. Et il reviendra à la fin. Et nous sommes au bénéfice, grâce à Dieu, de ce ministère qui est un ministère de restauration. Un ministère de rétablissement de notre personnalité pour nous donner la liberté. Bon, on aura toujours des harassements, mais on sera libre. Mais ici, on a besoin de personnes qui nous aident à nous entraîner vers la compréhension, vers une métanoïa, vers un changement de pensée et qui amène le pardon et le retirer les droits. Donc on voit que l'esprit impur fait corps avec l'homme qu'il influence ou qu'il possède. Il parle en son nom et s'associe à lui dans un nous. Le récit dans son ensemble est très très simple, très rapide, très concis, très dynamique. Et l'épisode de l'exorcisme, comme vous le voyez ici, est très bref. Jésus s'adresse à l'esprit impur avec force. Il dit « tais-toi ». Alors littéralement, on devrait écrire « sois muselé ». Et en français courant, ferme-la. Ou encore plus vulgairement, ferme ta gueule. Si. Alors, aucune traduction à ma connaissance, n'ose cette vulgarité. Mais le fait que Jésus parle bien à l'esprit impur comme à une bête. Les esprits impurs sont des bêtes. Ils sont au service de Satan. Ils n'ont pas ni d'éthique, ils n'ont pas de compassion, ils veulent simplement vous détruire. Il faut bien comprendre ça. C'est Jésus qui nous aime, C'est Jésus qui prend égard. Regardez comment Jésus prend égard. Même avec les gens voilà, qui comprennent pas, bah, il ne les bouscule pas. Il les traite avec amour. Okay, l'ennemi, vous savez, nous, avec Michel, on a passé un temps difficile dans l'Église. Bah, il n'y a aucune compassion de l'ennemi. Hein. Il vous écrase, il vous détruit jusqu'au bout. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien en vous. Hein. Quand vous êtes là-dessous, bah, je peux vous dire que c'est terrible. Hein. Et là, Jésus dit, ferme ta gueule. Ok ? Ça ne vous choque pas ? C'est ça que Jésus a dit. Ferme ta gueule. Okay ? Comme une bête qui doit fermer sa gueule. Et immédiatement, l'homme est secoué de convulsions et un grand cri. L'esprit sort de lui. Voyez-vous, Jésus sait à qui il a affaire. Et nous, voilà, on fait de l'abstraction, on fait un tas de choses, on fait des fioritures, etc. Parce qu'on ne sait pas ce qui est en face. Jésus le sait. Il s'adresse à la réalité de ce qu'il y a derrière. C'est une bête qui veut s'emparer de la personne pour la rendre esclave du péché. Hello ? Et Jésus s'adresse à cet esprit parce qu'il sait qu'il est venu pour les détruire. Détruire le royaume de Satan et de toute sa clique. De nouveau, ce n'est pas l'existence des démons, la compréhension des exorcismes là, qu'on traite ce matin, mais l'autorité de Jésus, telle qu'elle est mise en scène par Marc, l'évangéliste. Ici, le mot autorité n'est pas employé. Mais la succession immédiate entre l'ordre donné à l'esprit impur et la libération de l'homme possédé. Cette succession, voyez-vous, immédiate manifeste l'autorité, l'efficacité de Jésus. Et le lecteur que nous sommes, hein, on est surpris de ce que des pêcheurs sur les bords de la mer de Galilée abandonnent immédiatement le travail, la famille, pour suivre un simple appel de Jésus. Nous voyons l'autorité de l'appel de Jésus. Il dit, venez à ma suite, et aussitôt ils le suivirent. Voyez-vous l'autorité de Jésus ? Il s'adresse à Pierre, il s'adresse à André, il dit, venez me suivre. Voyez l'autorité de Jésus. C'est qu'ils reconnaissent, quand ils sont appelés par Jésus, qu'il y a quelque chose de plus qui les dépasse. Et le lecteur de la Bible ne peut pas manquer de penser au récit de la Genèse, hein, Genèse 1, où il est dit que Dieu dit et la chose est. La chose a existé. Voyez-vous ? C'est l'autorité de Dieu. L'autorité du Père, qui est la source de toute création, eh bien, il dit et la chose se fait. Jésus dit et la chose se fait. Alors ? Plusieurs fois, je prends cet exemple, il faudrait que j'en change un jour, mais dans une école biblique, ils ont appris à chasser les démons, etc. Et ils étaient tout un groupe d'étudiants, une douzaine autour d'un pauvre gars qui était influencé, démonisé. Et ça faisait des heures qu'ils priaient et rien ne se passait. Et puis un ancien professeur qui passe à 15 mètres, il voit ça, il comprend tout de suite ce qui se passe. Et dans son cœur, il dit à voix basse, esprit sort. Il a désigné l'esprit est parti. Et tu es choqué, qu'est-ce qui se passe ? Oui, c'est l'autorité. Et bien, on n'a pas besoin de crier sur les démons. C'est pour ça, à un moment donné, on s'est un peu retiré, entre guillemets, du TQP, non pas ce qu'il est mauvais, mais le ministère des maisons d'Élie, je ne sais pas si vous avez remarqué, on ne chasse les démons que lorsqu'on le discerne, on le chasse en ne faisant pas un grand tintamarre autour du démon, on dit simplement esprit sort. Quand on a identifié le démon, surtout quand on a commencé à faire une délit, on a identifié les racines, donc on sait de quel démon il s'agit. Parce que les démons, vous savez, il y en a qui interrogent les démons, ça ne sert à rien. En plus, ils disent ce qu'ils veulent, donc ça ne sert à rien de les interroger, puisqu'ils sont menteurs. Mais si vous connaissez la racine, par exemple, la racine de colère, vous identifiez la colère dans la personne. Vous voyez, la colère, c'est un péché, hein, en tout cas la colère telle qu'on l'a définie, c'est un péché. Et si la personne se met en colère régulièrement, ben, la personne est emprisonnée dans la colère. Il ne peut plus sortir tout seul. Si vous, vous avez la permission de la personne qu'elle identifie, qu'elle reconnaît, qui est la colère, eh bien, vous, vous pouvez simplement dire, une fois que c'est confessé, une fois que c'est identifié, une fois que c'est sorti du déni, une fois qu'il dit maintenant je veux m'en sortir, vous dites colère, tu sors au nom de Jésus et il s'en va. Pas besoin de passer. Vous voyez, vous passez plus de temps avec la personne, prendre soin de la personne, qu'avec le démon. Jésus passe pas du temps avec les démons. Allô ? Ça vous parle ? Notez ça sur vos carnets. Jésus ne passe pas du temps avec les démons. Il passe du temps avec la personne. Il veut restaurer les personnes. Il veut restaurer les individus. Il veut nous restaurer. Il veut nous donner la personnalité telle qu'il l'a prévue pour nous. Et le démon, quand vous l'identifiez, ben vous lui dites, tu sors au nom de Jésus. Et vous pouvez le dire juste avec une voix. C'est l'autorité avec laquelle vous le faites. Allô ? Je suis clair. C'est pour ça que j'aime le ministère de la Maison d'Élie. Et je connais... Enfin, avec Michel, on connaît les fondateurs, hein, donc, qui sont des. Lui, il avait un prophétisme. Il était voyant, quoi, carrément. Il voyait des choses spirituelles. Et bien, il n'a jamais étalé des choses sur les démons. Oui. Il n'a pas écrit des choses sur les démons. Je ne dis pas que ceux qui le font, c'est mauvais. Mais dans le ministère d'exorcisme, ce qui est important, c'est l'autorité. Amen. Dis-le à ton voisin. C'est l'autorité qui est importante. Voilà. C'est pour ça qu'il faut comprendre la nature de l'autorité. La nature de l'autorité, c'est au fond de soi, être sûr. Et comme je vous l'ai dit, bon, je suis chargé d'écrire un peu la vision, enfin d'écrire la vision. Et en introduction, je vais dire que moi j'étais contre l'autorité parce que je suis un 68-art. Hein, 68, on a dit l'autorité est interdite d'interdire. Moi j'étais d'accord avec ça. J'étais antimilitariste, j'étais objecteur de conscience et tout ça parce que je considérais que l'autorité, parce que mes pères exerçaient mal l'autorité. Hein, vous savez, en Allemagne, ça rigole pas. Quand... Enfin, maintenant ça change. Voilà. Et donc j'étais pétrifié par l'exercice de l'autorité. D'ailleurs, ma sœur a beaucoup souffert parce qu'elle a eu la même autorité que les trois garçons que nous étions. Et elle a trinqué, hein, parce que voilà, l'autorité. Ma mère a dit, il faut casser la volonté, voilà. Casser la volonté de l'enfant, voilà, pour soumettre à l'autorité. Mais donc moi je voulais rien savoir et j'ai mis 50 ans maintenant à comprendre et à aimer l'autorité, non pas l'autoritarisme, l'autorité. Parce que je sais qui est mon appel. Je sais que Dieu m'a appelé dans un ministère que je dois exercer. Et s'il ne l'exerce pas, il va se transformer en serpent et il va détruire l'autorité. Donc l'autorité, c'est une assurance que vous avez. Parce que l'appel que vous avez reçu est de Dieu. Jésus était assuré de l'appel de son Père. Il était en communion avec son Père. Parce que le Père a cherché qui pouvait délivrer l'humanité. Il n'a trouvé personne. Et Jésus s'est levé et a dit, moi, je veux bien cette mission. Par contre, cela a mené jusqu'à la croix. Quand on veut exercer l'autorité, ça amène jusqu'à la croix. Jusqu'à la mort de soi. Si on n'accepte pas la mort de soi, on ne peut pas exercer l'autorité, je peux vous le garantir. La véritable autorité, c'est quand on rentre vraiment jusqu'au bout dans l'obéissance à Dieu. Alors comme souvent, le récit de guérison se termine par un cœur de spectateur. Ici, on assiste à la scène d'un effroi mêlé d'étonnement et d'admiration. Contrairement à l'esprit impur, le lecteur, hein, donc de ce récit, on reconnaît, on voit que l'autorité n'est pas reconnue préalablement. On ne sait pas qui est Jésus, les démons le savent, mais on en voit les effets de libération de la personne, l'acte libérateur. Et cet acte libérateur tient lieu d'enseignement. Voyez-vous, c'est là qu'on rejoint l'enseignement. C'est quoi comme enseignement ? C'est pas un enseignement abstrait. C'est pas un enseignement sur le sexe des anges. Ça existait au Moyen-Âge. Hein. On a beaucoup essayé de trouver le sexe des anges dans la Bible. Bon. Vous voyez, tout ça, c'est pas ça l'autorité. L'autorité de Jésus se manifeste dans l'effet qui est suivi. Moi qui suis d'origine scientifique, j'aime bien ça. J'essaie d'éviter les spéculations, j'essaie de voir ce qui se passe. Toute ma vie, j'ai dû résoudre des problèmes concrets. Vous savez, quand vous voyez une fusée qui part à l'horizontale, il faut essayer de comprendre pourquoi. Quand vous voyez des satellites qui n'ouvrent pas leur volet pour avoir l'énergie, vous avez des milliards qui partent en fumée, il faut trouver la solution. Même à 36 000 km, il faut essayer de secouer l'engin, d'avoir tous les spécialistes. Il faut prendre 2, 3 mois, 4 mois. Je me suis déplacé en Allemagne, etc., pour comprendre, trouver tous les experts en cryogénie. Parce que là-haut, du côté soleil, ça fait plus 120, et de l'autre côté, moins 273 degrés. Alors, essayez d'imaginer ce qui se passe dans ces conditions-là. Ben, il faut trouver la solution. Sinon, on n'est pas bon. Bon, des fois, on n'y arrive pas. Des satellites qui sont perdus. Mais très souvent, on les récupère. Donc, c'est l'efficacité qui est importante. Ce n'est pas le blablabla. Ce n'est pas la tchatche. Ce n'est pas il n'y a qu'à Faucon. Il faut trouver la solution. Moi, je suis quelqu'un qui aime trouver des solutions et pas des problèmes. Nous sommes au cœur de l'autorité, comprise par ce qui autorise à être auteur. Toute autorité vient de Dieu. Et Dieu qui a créé toutes choses, il peut recréer des choses qui se sont mal passées. Si dans votre vie, il y a des choses qui sont mal passées, Dieu peut les créer. Vous le croyez ? Il peut les recréer. Il peut enlever tout ce qui est mauvais et le remplacer par ce qui est à l'origine, ce qui aurait dû faire votre vie. Amen. Ça, c'est une vision du monde. Quelle est notre vision ? Est-ce que notre vision, c'est de voir les démons comme une menace ? Ou est-ce que c'est de voir l'autorité de Jésus, qui est toujours le vrai aujourd'hui, qui, lorsque je l'exerce dans le nom de Jésus, et c'est pas une formule. Il y a des chrétiens qui pensent, hein, ils enseignent, qu'il faut utiliser des formules. Par exemple, Jésus de Nazareth, Jésus-Christ. Si vous ne dites pas Christ, le démon ne va pas partir. Il y a tout un tas de livres qui vous parlent de ça. Mais ça, c'est je dirais, de la foutaise. Ce n'est pas ça l'autorité. L'autorité, si vous croyez dans l'autorité de Jésus, ben, il suffit de dire au nom de Jésus, vous savez qui est Jésus parce que vous le connaissez, eh bien, tu t'en vas. Puis c'est tout. Et ça se fait. Vous voyez, c'est très simple. Plus simple, tu meurs. Okay. Il faut rester dans la simplicité de l'évangile et dans la simplicité de l'enseignement de Jésus. Être efficace dans les mots que nous utilisons. L'homme libéré va pouvoir reprendre sa vie en main. Le gadarinien, qui était en dehors de la ville parce qu'on ne pouvait plus, voilà, il fallait mettre des chaînes partout, sinon il détruisait tout. Ah ben, Jésus l'a libéré et il a pu reprendre une vie normale, une vie sociale, une vie, voilà, telle que chacun d'entre nous. Voyez-vous, Jésus a restauré eh bien, cet homme. Et on va pouvoir dire je à la place de nous. Ici, c'est du nous. C'est le démon et moi. Est-ce que vous voulez garder des démons ? Le démon et moi. Ok ? Non ? Ah ben, pour passer du nous au je, il faut exercer l'autorité de Jésus dans nos vies. Et pour cela, il faut leur enlever les droits. Clarté, droit, autorité. L'autorité vient de ce qu'on enlève les droits à l'ennemi et qu'on reprend nos droits dans l'identité que Dieu nous a donnée à travers la croix. On est dans le ministère de libération de la personne, afin qu'elle puisse entrer en possession pleinement de sa personnalité en se débarrassant d'un esprit qui le rend esclave. C'est tout le livre de Neil Anderson, hein, qui en fait est à l'origine un petit peu du TQP, du ministère de la Maison des Lits, enfin tout, c'est la même origine. Vous pouvez toujours vous procurer le livre, hein, ça s'appelle Le Libérateur. Il y a aussi un autre livre dont je ne me rappelle plus, qui est écrit par lui, qui explique très bien ce fonctionnement de reprise du droit. Alors si on reprend un peu le bilan de cette exégèse, de cette parole de Marc, on voit que l'autorité de Jésus est reconnue après coup, parce qu'elle vient du Père, et que les gens de l'époque, les Juifs, ne connaissaient pas le Père. Ils connaissaient les scribes. Voilà, ils étaient soumis aux rabbins, aux scribes, à la parole. C'est pour ça qu'ils étaient légalistes, hein, à la loi, ce que Moïse avait dit. Hein. Mais derrière Moïse, il y avait quoi ? Il y avait Abraham. Avant Moïse, il y avait Abraham. Abraham, il n'avait pas la loi. Mais il a cru en Dieu. Donc c'est cette simplicité de la foi en Dieu qui est importante. Ce n'est pas l'éloquence. C'est l'éloquence. Paul a dit, je considère de la boue toute l'éloquence. Et pourtant, il était érudit, un homme le plus érudit de son temps. Il a dit, je regarde ça comme la boue. Non pas que ça vaut rien, mais ça vaut rien par rapport à la connaissance de Christ. Lorsque je connais Christ et la puissance de sa résurrection et la croix, la puissance de la croix, eh bien, c'est ça qui m'importe. C'est la sagesse de Jésus. L'autorité de Jésus se manifeste chez Marc dans son effet libérateur. Et cette libération, nous le voyons par la suite, déjà dans la maladie, vis-à-vis de la maladie. La belle-mère de Simon, eh bien, avait de la fièvre. Quand on dit de la fièvre, c'est à mourir. Eh bien, elle sort complètement guérie, etc. Le paralytique guéri au chapitre 2. Voilà, Marc est rempli de cette efficacité de l'autorité de Jésus. Amen. Alors, méditons ce passage, que ce soit comme une révélation pour nous. Pas simplement une connaissance intellectuelle, mais une révélation. Que nous soyons stupéfaits de la puissance de l'action libératrice de Jésus, et que nous puissions l'appliquer à nos vies, à ceux qui nous entourent, comme on l'a fait ce matin. Si nous croyons de tout notre cœur, eh bien, les choses vont se réaliser. Amen. Il y aurait beaucoup d'exemples à donner. Je pense à un exemple qui me vient à l'esprit. C'était en Afrique, il y avait des missionnaires qui avaient reçu comme mandat, donc un appel d'aller dans je ne sais plus quel pays, enfin quel endroit d'un pays. Et donc ils ont obéi à Jésus. Et ils sont allés à cet endroit. Et les chefs du village ont dit non. Ça c'est notre propriété, vous ne passez pas. Vous ne pouvez pas passer. C'est notre propriété, ces gens-là nous appartiennent. Ils ont dit, qui est-ce qui est en autorité ? C'est les chefs ou c'est Jésus ? Donc ils ont prié, ils ont jeûné, et ils ont dit, Seigneur, voilà, nous sommes à ta merci, nous n'avons pas demandé à venir là, nous sommes là parce que tu l'as demandé. Ils ont prié. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un feu qui s'est démarré, qui a entouré les chefs qui ont... je raconte l'histoire, ça a duré plusieurs jours, parce que vous savez, comme Pharaon, au départ, voilà, ils ne veulent pas accepter. Hein. Donc, le feu est venu, hein, et ça les a brûlés complètement. Ils sont venus en courant voir les missionnaires, alors qu'ils étaient en train de prier. Et ils ont vu des anges autour, des grands anges de 3 mètres de haut avec des glaives. Et ils se sont rendus, ils ont dit, non, allez-y. Et il y a eu un réveil qui s'est produit, toute la tribu s'est convertie à Jésus. Voyez, on ne peut pas s'opposer à l'autorité de Dieu. On ne peut pas s'opposer à condition de croire. Et en croyant, c'est sur nos genoux. Alors, prenez votre genou. Voilà, symbole de l'intercession et de la prière. Dites au nom de Jésus, je vais m'engager dans l'intercession pour exercer l'autorité de Jésus. Amen. Dans ma vie, dans ma famille, dans l'Église, autour de moi, c'est par l'intercession. Parce que dans l'intercession, dans la prière, il n'y a pas de limite, parce que Jésus voit notre humilité et notre soumission à sa parole, et c'est lui qui intervient. Vous laissez Jésus intervenir, parce que c'est lui qui est en autorité sur ces puissances, et surtout les puissances du deuxième ciel, qui sont des stratèges qui manipulent les démons. Et là, on n'a aucune autorité là-dessus. Jésus qui a l'autorité. Et Dieu met toutes ses autorités sous ses pieds, jusqu'à ce qu'il viendra pour établir son règne. Amen. Seigneur, merci pour ta parole et pour l'enseignement que nous donne, Seigneur. Tu vois que à l'époque de Marc, qui relate ces fêtes, le peuple était dans la stupéfaction. Ils n'ont jamais vu une autorité d'enseignement telle que celle de Jésus, qui a autorité sur toute chose, sur les éléments déchaînés, sur la maladie, sur les mauvais esprits. Seigneur, nous voulons être de ceux qui, Seigneur, croient que ton autorité n'a pas changé et qu'il est la même, hier, aujourd'hui, éternellement. Et nous voulons la voir se manifester dans nos vies. Seigneur, nous te prions que nous donnes de pouvoir croire et de manifester cette autorité dans nos vies. Te prions au nom de Jésus. Amen.